à toutes et à tous, Alexandre Carr est au micro, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale qui marque le 75e anniversaire de l'ONU et les 100 ans du multilatéralisme à Genève. Il y a 75 ans, le 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies entrait en vigueur, c'est l'acte qui donne naissance à l'ONU. Pour célébrer ce 75e anniversaire, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a décidé de lancer un vaste dialogue à l'échelle planétaire sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction de l'avenir que nous voulons. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller à la rencontre de jeunes voix pour les écouter, qu'ils nous donnent leur vision des priorités de l'ONU pour le futur. Ils sont aussi des témoins privilégiés de ce que font les Nations Unies et les organisations internationales, puisque Genève est un des principaux centres de cette coopération multilatérale depuis plus d'un siècle. Dans la première partie de cette émission, nous évoquerons les 100 ans du multilatéralisme à Genève. Ensuite, nous discuterons des priorités des Nations Unies pour les 25 prochaines années à venir, avec de nombreux invités en studio. Et en fin d'émission, nous aurons le plaisir d'écouter Tatiana Valovaya, la directrice générale des Nations Unies à Genève, qui évoquera sa vision de l'avenir de la Genève internationale.
Moi, j'ai grandi pas très loin du quartier des organisations internationales, donc c'est sûr que ça fait partie de Genève et puis ça fait partie de l'image de Genève. Il y a toutes les organisations internationales et effectivement, du coup, Genève est tournée vers l'extérieur depuis longtemps et ça fait partie de cette histoire-là.
Notre première invitée pour évoquer les 100 ans du multilatéralisme à Genève est la chef de la section mémoire institutionnelle à la Bibliothèque des Nations Unies à Genève, Blandine Bloukas-Louis-Fer. Bonjour.
Bonjour.
Comme le dit David, un ingénieur de 39 ans genevois qu'on vient d'entendre, Genève est une ville qui, depuis 100 ans, est inscrite dans l'histoire des relations internationales.
Tout à fait, puisque c'est Genève qui a été choisie en avril 1919 pour être le siège de la Société des Nations, première organisation internationale créée pour maintenir la paix et favoriser la coopération entre les États après le choc qu'avait représenté la Première Guerre mondiale.
Alors pourquoi justement avoir choisi Genève il y a 100 ans pour installer la Société des Nations ?
Alors ça n'allait pas tout à fait de soi, il y avait plusieurs villes européennes en concurrence, alors je dis bien européennes parce que on sortait de la Première Guerre mondiale qui avait touché essentiellement l'Europe et l'Europe était à reconstruire, donc il allait de soi que le siège serait en Europe. Après, il y avait des concurrentes comme Bruxelles, mais c'est finalement Genève qui a été choisie pour un certain nombre de raisons. D'abord, il y avait déjà sur le territoire genevois une organisation à caractère international, le CICR, qui avait donné à Genève une renommée au-delà des frontières suisses. Et puis, le fait que ce soit un pays neutre, et les délégués à la conférence de la paix de Paris ont considéré qu'elle représentait les meilleures conditions pour faire se rencontrer des délégués de tous horizons.
Alors, tout au long de ces 100 dernières années, la Genève internationale va s'agrandir. De nombreuses organisations aussi vont s'établir ici au bord du lac Léman. Donc, la ville est vraiment devenue un carrefour incontournable de la coopération internationale.
Oui, tout à fait. Et c'est effectivement la présence de l'ASDN et les activités qu'elle a développées à Genève qui ont favorisé ce développement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bien sûr, le monde a évolué. Donc, les activités ont continué à évoluer et à se développer. Donc, on a maintenant une multitude d'organisations sur le territoire genevois.
Alors, une exposition retrace les 100 ans du multilatéralisme à Genève sur la place des Nations. Qu'est-ce qu'on peut y voir ?
Elle essaye de montrer que tout ce travail réalisé pendant 100 ans et encore aujourd'hui touche la vie quotidienne de tout un chacun, ce qui est peut-être moins connu. Par exemple, qui sait que les panneaux routiers ont été standardisés en 1931 par l'ASDN et que si aujourd'hui un panneau stop a une forme ronde, bah c'est en 1931 que ça s'est décidé. La téléphonie, les téléphones portables qui sont favorisé par le travail de l'UIT, de l'Union internationale des télécommunications. Évidemment, en temps de crise Covid-19, on peut parler de l'OMS, que tout le monde entend parler, dont tout le monde entend parler quotidiennement. Il faut savoir que l'OMS, et ça on le montre dans l'exposition, l'OMS a éradiqué, enfin, grâce à l'action de l'OMS, on a pu éradiquer la variole en 1983.
C'est une question que nous poserons à tous les invités aujourd'hui. Comment voyez-vous l'avenir de l'ONU et peut-être plus particulièrement la place de la Genève internationale dans les prochaines années ?
Je pense qu'au XXIe siècle, on est face à de nouveaux défis qui nécessitent un multilatéralisme plus inclusif et une interconnexion des activités, non seulement au niveau des États, mais aussi des villes, des régions, de la société civile et même du secteur privé. Et je pense qu'à Genève, avec l'écosystème bâti depuis ses 100 ans, la ville est très bien placée pour jouer un rôle clé dans le futur.
Blandine Blouka-Louise Fer, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de la section mémoire institutionnelle à la Bibliothèque des Nations Unies à Genève. À très bientôt.
Je crois qu'il est là pour un petit peu réglementer tous les États qui sont ensemble, si je ne me trompe pas, au niveau de beaucoup de choses, il me semble, sur l'environnement, sur la santé peut-être. Voilà, sur tout ça.
Même si les organisations internationales sont présentes depuis plus d'une centaine d'années à Genève, pour certains Genevois, le travail de la Genève internationale reste assez obscur. Pour eux, les Nations Unies semblent loin de leurs préoccupations. C'est en tout cas l'avis de Maïva, une responsable de magasin à Genève.
Mais je ne me sens pas touchée, c'est-à-dire que je sais le travail, je sais ce qu'il y a à faire. Par contre, c'est vrai que je ne me sens pas proche de l'ONU. Mais ici, on ne sait pas tout ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que ni en termes de flyers, ni en termes de... On est quand même à côté, en frontière, on ne sait rien. S'ils faisaient des visites de locaux, tout ça, où on pourrait expliquer aux gens ce qu'il en est, de quoi ils ressortent, ce qu'on peut faire au quotidien pour aider, tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant.
Pour évoquer cette question, nous avons rejoint en studio Nicole Do, responsable du service des visites du Palais des Nations, et Réal Leblanc, chef du service presse et des relations extérieures des Nations Unies à Genève. Peut-être pour répondre directement à Maïva, je m'adresse à vous, Nicole. En temps normal, vous organisez déjà des visites tout au long de l'année au palais dans plusieurs langues.
Oui, bonjour Alexandre et merci. Effectivement, il y a un service des visites au Palais des Nations. Et en temps normal, nous organisons des visites toute l'année, du lundi au vendredi. Et l'été aussi, le week-end, le samedi.
Donc c'est vraiment des visites qui sont destinées au grand public pour découvrir justement ce que Maïva disait, le travail que nous faisons.
Exactement. Alors le but de la visite, c'est de faire connaître l'Organisation des Nations Unies et aussi les spécificités de la famille onusienne à Genève. Donc nous parlons de ça, des activités des Nations Unies à Genève. Nous montrons le Palais des Nations, nous montrons les salles de réunion, nous expliquons comment une réunion fonctionne, nous parlons des ODD. Nous parlons également de différentes donations qui ont été faites au Palais des Nations. Nous décrivons l'art et l'histoire du bâtiment et de l'organisation.
Réal Leblanc, je me tourne vers vous. Le fait que de nombreux Genevois que nous avons interrogés se semblent éloignés de la Genève internationale, qu'ils ne connaissent pas le travail des organisations internationales, c'est un défi à relever pour le service de l'information.
Oui, bonjour Alexandre. Tout à fait, c'est un énorme défi à relever. Et c'est tout à fait compréhensible que les Genevois ou les visiteurs qui viennent à Genève ne comprennent pas toujours le travail des Nations Unies. C'est une énorme organisation composée d'un siège social, de différentes agences satellites, programmes, fonds. Et lorsqu'on passe devant le Palais des Nations, on a de la difficulté à visionner ou à s'imaginer tout le travail qui se fait derrière ces murs.
Il y a un aspect très forteresse aussi.
Effectivement. Le palais n'est pas toujours accessible à tout le monde. D'où l'objectif du service de l'information de créer des produits et des activités qui permettent au grand public de découvrir certains aspects du travail des Nations Unies et de mieux comprendre ce que cette organisation fait pour eux.
C'est important aussi d'aller vers les Genevois, de sortir des murs du palais, justement.
Ah oui, tout à fait. On essaie d'organiser des activités, des événements grand public qui vont justement à la rencontre de ces gens. Par exemple, on a un ciné-ONU. C'est une projection de film. Donc, les gens sont invités à venir voir ce film. C'est l'entrée est gratuite. Et c'est suivi d'une discussion avec des experts de l'ONU et de la communauté internationale où on va développer le thème, justement, du film. Et ça permet, à ce moment-là, au grand public de poser des questions et d'en savoir un peu plus sur ce qu'on fait.
Il y a un public qui est très important aussi pour découvrir nos activités, ce sont les jeunes, parce que ce sont eux qui vont être sensibilisés aussi au travail de l'ONU, des organisations internationales. Vous avez organisé depuis le début de l'année, pour le 75e anniversaire, des visites dans les classes, du personnel des Nations Unies va dans les classes pour expliquer le travail des Nations Unies et des organisations internationales.
Cette année, dans le cadre du 75e anniversaire de l'ONU, justement, notre directrice générale, de concert avec l'ambassadeur de la Suisse auprès des Nations Unies, avait exprimé le souhait que l'ONU aille davantage vers les écoliers. Donc, on a travaillé de très près avec la Confédération, avec la Fondation Eduki, qui connaît très très bien ce public étudiant, pour mettre en place un programme de visite dans les écoles.
Nicole Do, les enfants, les jeunes sont aussi les bienvenus pour les visites au palais?
Oui, alors pour l'instant, notre équipe s'adapte à l'âge des groupes quand ils viennent nous voir. Mais nous avons travaillé aussi sur une visite pour les 10-15 ans et plus spécifiquement pour les 12-15 ans. avec des exemples peut-être qui vont les intéresser encore un petit peu plus et pour les mobiliser. Voilà, donc ça c'est une visite qui va être lancée très rapidement.
Dernière question à vous deux. Comment voyez-vous l'avenir de l'ONU et du multilatéralisme à Genève? Peut-être Nicole Daud d'abord.
Alors, je pense qu'il y a des gros défis lancés au multilatéralisme en ce moment, ça c'est vrai, globalement et d'une manière régionale aussi. Pour moi, il y a deux choses dans le futur, en fait, par rapport à ça. L'une, c'est de renforcer les organisations qui sont actives dans le multilatéralisme pour qu'elles puissent répondre mieux à ces défis. Et la deuxième chose, c'est de travailler encore plus dans l'intégration des différents acteurs. Traditionnellement, on parlait des gouvernements comme acteurs principaux dans le travail multilatéral. Là, on a déjà bien commencé à intégrer la société civile, le secteur privé, le monde académique, mais je pense qu'on peut intégrer ces différents acteurs encore plus. Et donc, pour Genève, je ne m'inquiète pas du tout, parce qu'à Genève, il y a tous ces acteurs dans tous les secteurs. Je pense que Genève va en fait devenir encore plus importante dans le travail du multilatéralisme grâce à ces organisations et ces gens qui sont déjà ici très actifs et qui vont sans doute l'être encore plus.
Réal Leblanc, même question. Votre vision de l'avenir de l'ONU?
Lorsqu'on pense au multilatéralisme, on a peut-être tendance à penser à discussions entre les gouvernements, entre les chefs d'État, entre les hauts fonctionnaires de ces organisations. Or, on voit de plus en plus que la société civile et d'autres acteurs de la communauté internationale prennent beaucoup plus de place et veulent s'imposer, veulent faire entendre leur voix. Et je crois que c'est tout à fait important de les écouter. On a vu l'année dernière le mouvement de jeunes qui s'est mobilisé autour des changements climatiques. Je crois que les chefs de gouvernement ne peuvent pas ignorer ces préoccupations et donc doivent vraiment écouter tous les acteurs qui ont des idées à exprimer. Et puis je pense que notre secrétaire général a beaucoup mis l'accent sur la solidarité internationale. On ne peut pas penser qu'à soi. Il faut, lorsqu'on fait partie d'une planète et on a juste une, eh bien il faut penser solidarité internationale et travailler ensemble, main dans la main, pour trouver des solutions à ces enjeux d'envergure planétaire.
Un grand merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Nicole Daud, je rappelle que vous êtes responsable du service des visites du Palais des Nations et Réal Leblanc, chef du service presse et des relations extérieures des Nations Unies à Genève. C'est la fin de cette première partie consacrée à la Genève internationale. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale avec de nouveaux invités pour évoquer les défis de l'ONU pour l'avenir. L'avenir de l'ONU et du multilatéralisme est le grand thème du dialogue mondial engagé par le secrétaire général de l'ONU à l'occasion du 75e anniversaire des Nations Unies. Plus d'un million de personnes y ont déjà participé. Nous avons demandé aux jeunes voix quelles devraient être les priorités de l'ONU dans le futur. Écoutez leurs réponses.
Moi, je pense que c'est la paix entre tous les pays. Et aussi, c'est la égalité entre les hommes et les femmes.
L'environnement.
Environnement?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas normales qui arrivent. En tout cas, rien qu'en France, déjà, on voit tous les dégâts, tout ce qui a pu se passer dans le sud de la France. Bon, après, il n'y a pas que ici, mais il y a aussi toute la fonte, tout ce qu'ils font au niveau des icebergs, de la glace, tout ça. Donc, je pense que c'est un gros travail à faire.
Par rapport à toutes les populations qui sont exterminées, une cause racisme, la politique des pays totalitaires envers des minorités, des ethnies minoritaires. Je trouve qu'on ne fait pas assez pour ça. Enfin, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des organisations qui doivent prendre peut-être des décisions politiques. Mais alors, qui est-ce qui va les faire? Qui va le faire?
Les droits de l'homme, le climat, l'environnement, la Covid-19 sont les thèmes revenus le plus régulièrement dans nos interviews. Ces thématiques sont largement au cœur du travail de la Genève internationale. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Marta Hurtado, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, et Elena Manankova, la secrétaire générale adjointe de l'Organisation météorologique mondiale. Marta Hurtado, bonjour.
Bonjour.
La question du racisme, des discriminations envers les minorités ou des inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, sont des préoccupations importantes pour les jeunes voix que nous avons interviewées. Je ne m'avance pas trop en disant que ce sont aussi des priorités pour le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et que pour répondre à Françoise, l'une des jeunes voix que l'on vient d'entendre, votre organisation est très active pour dénoncer les situations des violations des droits de l'homme partout dans le monde.
Voilà, oui, on est engagé, on a été toujours bien engagé et plus maintenant en termes de Covid, des pandémies. C'est bien que vos invités interviewés parlent des problèmes des inégalités et de la discrimination comme un de ses préoccupations, parce que les inégalités et la discrimination sont les plus importants défis de notre temps. Et malheureusement, les inégalités préexistantes avant la pandémie se sont agrandies pendant la pandémie. Clairement, il y a un impact pas égal pour les hommes que les femmes. La conclusion, c'est, une fois de plus, c'est les femmes qui payent un prix plus haut. Mais la discrimination, ce n'est pas seulement homme-femme, hein, entre sexes, c'est aussi dans les sens de la société. Et sont toujours les plus pauvres, ceux qui payent le plus. Donc, vraiment, pour nous, c'est un travail de tous les jours, lutter contre cette discrimination, cette différence, cette manque d'égalité dans nos sociétés.
Michèle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, communique régulièrement sur ces questions. Quel est plus globalement son rôle ?
C'est promouvoir et protéger les droits humains à travers le monde. Donc on fait ça à travers de la surveillance, de la recherche, du monitoring qu'on est en anglais. On travaille très étroitement avec les ONG, la société civile. Et on fait des rapports qu'on publie ou pas, parce que notre but final, c'est collaborer avec les États, essayer qu'ils changent ce qu'ils font mal ou ils font pas trop bien, et essayer que toutes les lois, tous les comportements suivent les règles et les normes des droits humains, toutes les parties internationales qui ont ces données, que la plupart des pays ils ont signé et ratifié, mais qui ne suivent pas.
Cette émission a pour but d'imaginer l'avenir des Nations Unies d'ici le 100e anniversaire, donc dans 25 ans. Quelle est votre vision justement de l'avenir des droits de l'homme ? C'est incombant, on le sait, de tous les jours. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont un peu remis en question partout dans le monde. Quelle est votre vision de cet avenir des droits de l'homme ?
Donc, il faut continuer à s'ébattre, et comme je disais tout à l'heure, mais non plus qu'avant, non ? Sur au labo, encore une fois, avec la pandémie, non, les droits basiques à la liberté d'expression. Et on a vu des gens emprisonnés ou silenciés pour informer sur la réalité dans leur pays. Non, et bien sûr, les droits à l'information, l'accès aux données, à l'information scientifique. Donc, ça ne s'arrête jamais. Non, donc, il faut continuer à s'ébattre et continuer à lutter pour que tout le monde, partout dans le monde, tous et toutes, aient droit à avoir leur respecter.
Martha Hurtado, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Moi, ce qui me préoccupe depuis quelques temps, c'est sûr que c'est la question du changement climatique et de ses conséquences. Ça fait pourtant longtemps que la communauté scientifique a alerté sur les problèmes, mais ça ne bouge pas, ou en tout cas pas assez vite.
Comme pour David, le climat et l'environnement sont des thèmes de préoccupation majeure pour la population. Elena Manenkova, je rappelle que vous êtes secrétaire générale adjointe de l'Organisation météorologique mondiale. Bonjour.
Bonjour, monsieur Alexandre.
Alors, chaque jour, vous aussi, vous alertez sur les conséquences du réchauffement climatique. Vous enregistrez tous les mois record sur record de température.
Ah oui, c'est vrai. En effet, l'OMM vient de signaler que le mois dernier a été le plus chaud septembre jamais enregistré. Le réchauffement de la planète signifie plus les catastrophes météorologiques et climatiques. Au cours de 50 dernières années, ils ont beaucoup augmenté. Plus que 11 000 catastrophes ont été attribuées des aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques. Et au cours de la prochaine période, prochaine 5 ans, 2020-2024, les températures mondiales continueront de se réchauffer et pourraient même dépasser temporairement 1,5 degré.
On le voit, il y a une forte mobilisation de la société civile sur cette question, notamment des jeunes, avec par exemple le mouvement lancé par Greta Thunberg. Estimez-vous que les États ont pris enfin la mesure du défi à relever dans ce domaine ?
Oh, Alexandre, il y a 5 ans, à Cour de Paris, réunissait toutes les nations autour d'une cause commune pour prendre les efforts ambitieux pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à l'effet. Mais aujourd'hui, malheureusement, le monde n'est pas sur les bonnes voies pour atteindre les objectifs convenus par maintenir l'augmentation de température mondiale bien au-dessus de 2 degrés ou même mieux 1,5 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Nous nous dirigeons vers le réchauffement bien supérieur à 3 à 4 degrés d'ici à la fin de ce siècle.
Pour terminer, Elena Malenkova, quelle est votre vision sur le futur de la planète, notamment avec cette question du réchauffement climatique ? Y a-t-il une lueur d'espoir, notamment avec l'implication des jeunes, des générations futures, comme on l'a déjà évoqué ?
Moi, peut-être cette année-là, 2020, je peux dire que le relèvement après la pandémie COVID-19 est une réelle opportunité pour l'avancer sur une voie plus durable et plus résiliente et lumière de changement climatique. Chaque degré de réchauffement compte. Limiter le réchauffement même à 2 degrés, c'est même mieux pour 1,5 degrés, signifie l'avantage exceptionnel pour la santé, l'eau, la nourriture, les changements pour les petites îles, les glaciers, toutes les planètes. Mais limiter le réchauffement, ce n'est pas impossible, mais nécessaire, une transition sans précédent dans tous les aspects de vie sociale. Nous devons être optimistes et nous sommes optimistes car notre travail contribue à sa vie de vie. OMM a commencé aussi à faire le service météorologique et climatique mondial afin que l'entreprise et le peuple puissent prendre les décisions en bon moment et en bonne manière. Donc, l'OMM continuera à diriger la surveillance de la science du climat à l'échelle mondiale et informer les décideurs et le public ce que ça se passe.
Un grand merci, Elena Malenkova. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale adjointe de l'Organisation météorologique mondiale. Pour conclure cette émission spéciale d'ONU Info Genève, j'ai le plaisir d'accueillir Tatiana Valovaya, la directrice générale des Nations Unies à Genève. Madame Valovaya, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir ensemble sur le 75e anniversaire de l'ONU et la place de la Genève internationale. Mais tout d'abord, je souhaiterais vous faire réagir sur ce que l'on a entendu au travers des différents témoignages au cours de l'émission. Il semble qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui pourtant habitent Genève ne connaissent pas bien la Genève internationale et ce qu'elle fait.
Oui, vous avez raison. Nous devons faire, je crois, davantage pour aller vers les Genois ordinaires. Et je crois que communiquer souvent et bien, c'est vraiment important. Quand les travaux de l'ONU au sein de la Genève internationale ont un impact sur la vie de tous les jours et tout le monde. On le voit très bien aujourd'hui avec l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, ou avec l'Organisation internationale du travail, qui vraiment travaille chaque jour pour défendre le droit du travail et pour lutter contre le COVID.
Madame Valovaya, on a beaucoup évoqué les 100 ans du multilatéralisme à Genève durant cette émission. Est-ce que Genève a toujours sa place aujourd'hui comme haut lieu de la coopération internationale?
Je le pense vraiment, car tous les jours, nous voyons les résultats du travail et des discussions qui se tient à Genève dans le cadre de rencontres multilatérales où sont traités les dossiers aussi variés que la conception et l'adaptation de normes technologiques, des mesures sanitaires qui touchent les populations du monde entier, de traités qui touchent la vie des migrants et des réfugiés, des mesures pour stopper le travail forcé et tant d'autres enjeux. Genève et la Suisse, je crois, se sont taillés une réputation en tant que lieu où les échanges et les discussions peuvent se dérouler dans la plus grande confiance et neutralité. Et comme la pandémie de COVID-19 l'a démontré, ce n'est qu'un ensemble que nous pouvons combattre et agir efficacement pour faire face à une crise d'envergure mondiale comme celle que nous vivons actuellement. Genève a donc de beaux jours devant elle, car il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la santé, des droits de l'homme, du développement durable, du désarmement et de la paix.
Madame Valovaya, j'ai posé cette question à tous nos invités. Alors que les Nations Unies célèbrent leur 75e anniversaire, quels sont selon vous les principaux défis que va devoir relever l'ONU au cours des 25 prochaines années?
C'est une question très très intéressante. Avant la crise du COVID-19, nous étions sur la bonne voie dans la réalisation des objectifs de développement durable, par exemple. Mais en même temps, nous avons dit qu'il faut accélérer. Mais depuis la pandémie, nous accusons du retard. Pour tenir ces promesses, les États membres doivent intensifier leurs actions. nous arrivons bientôt au 5e anniversaire de l'accord de Paris. Or, les décisions et les mesures qui s'imposent pour sauver notre planète d'un réchauffement incontrôlé sont loin de se matérialiser. Et il faut comprendre, ce n'est pas seulement sauver notre planète, c'est sauver notre civilisation. Et comme je l'ai mentionné, le multilatéralisme est en transition. Il s'ouvre à davantage d'acteurs, y compris les jeunes. Et je pense que si nous utilisons cette dynamique de la bonne manière, en nous appuyant sur la volonté politique, la détermination et le financement des États membres, mais aussi d'autres nouveaux acteurs, nous pouvons tenir notre promesse envers les générations futures.
Madame Valovaya, si vous aviez un petit message personnel à faire passer à l'occasion du 75e anniversaire, ce serait lequel ?
Bon, je souhaite évidemment longue vie aux Nations Unies et je suis rassurée par les résultats du sondage qui a été mené dans le cadre de ce 75e anniversaire. Vous savez que nous avons lancé une conversation globale et ces résultats montrent que 87%, imaginez-vous, 87% des répondants estiment que la coopération et la solidarité au niveau mondial sont des ingrédients essentiels pour affronter efficacement les défis de notre planète. Et 6 répondants sur 10 estiment que les Nations Unies ont fait de notre planète un endroit meilleur. Mais ils veulent aussi que l'ONU soit plus inclusive et diversifiée, plus transparente, plus responsable et plus efficace. Et nous devons redoubler d'efforts pour gagner la confiance et l'estime de notre public, tous les êtres humains. Et je crois que l'ONU Genève continuera à jouer un rôle moteur dans ce contexte.
Tatiana Valovaya, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice générale des Nations Unies à Genève. Et c'est la fin de cette édition spéciale d'ONU Info Genève. Encore un grand merci à tous nos invités, à l'équipe qui a préparé cette émission, Laurent Murli et Hugo Mantizello. À la réalisation, il y avait François Soubiguère. Mercredi prochain, l'invité de la semaine sera Christine Lowe, la directrice du bureau d'ONU Femmes à Genève, à l'occasion des 25 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.